Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Avec Fred Weiss, avec Sarah Pitkowski, David Douillet et Denis Charvet. L'événement aujourd'hui, je vous rappelle, 16h30, France-Angleterre, la demi-finale de la Coupe du Monde de rugby féminine. Le plus grand club de France actuellement, c'est bien le Stade Bordelais chez les filles. J'ai reçu des messages.
Quelle honte.
Menace. Mais attendez, il n'y a pas de soucis. Mais on est là pour déclencher les débats et la polémique. Mais non, mais évidemment qu'on le sait que le Stade Bordelais domine avec ses trois titres. Je rappelle que vous pouvez participer au jeu du sport tout à l'heure avec nous, jouer avec vos GG. Aujourd'hui, il y a un Ghetto Blaster à gagner de la marque Muse. Appelez au 3216 touche 4 ou envoyez sport au 7-32-16. Sport au 7-32-16 pour participer avec vos GG. Mais d'abord, les records ont-ils encore du sens?
RMC, le ring des GG.
Dans le ciel de Tokyo, il est parti. Armand Duplantis avec son maillot jaune. Il va encore faire vibrer la foule. Il est parti dans les airs. Et ça passe. 6m30. 14e record du monde. Super. Il assume. La barre a bougé. La barre a tenu. Duplantis est un phénomène et l'exception. Duplantis est au-dessus des autres. Il fait rester 70 000 personnes dans le stade de Tokyo jusqu'au bout de la nuit.
Victoire de McLaughlin, le chrono
40-80.
Deuxième perte de l'histoire. Deuxième perte de l'histoire.
Et Paulino va très vite aussi. Paulino va très vite.
À deux dixièmes du record du monde.
La chasse au record a alimenté notre semaine au Mondial d'athlétisme à Tokyo. Armand Duplantis a battu le record du monde du saut à la perche pour la 14e fois sur le 400 mètres féminin. Vous l'avez écouté, Sydney McLaughlin s'est approché tout près à 18 centièmes du record du monde de l'Allemande Marita Koch, qui avait été fait à une époque un peu plus sombre, on va dire. Certains records tombent ou sont approchés. Est-ce que les pointes utilisées par la génération actuelle changent tout? Ça aide énormément, dit Marie-José Pérec cette semaine chez nos confrères de l'équipe. J'aurais bien aimé avoir ça en 96, rigole la triple championne olympique en 200 et 400 mètres. Je vous pose la question. Les GG, les avancées technologiques faussent-elles les records? J'ai deux oui, David et Denis, deux non, Fred et Sarah. Sur le compte X des GG, je vous le dis, c'est le oui pour l'instant qui mène beaucoup. Hein, 54% pour le oui, donc les avancées technologiques faussent les records. On vous attend au 32-16 et envoyez vos messages sur WhatsApp au 06 12 424 424. Aurélien Tiercin, le chanceux, est à Tokyo. Salut Aurélien!
Salut les GG, salut les amis.
Pour faire tomber les records en ce moment, Aurélien, il faut avoir la bonne chaussure.
Oui, alors forcément, quand on regarde, là je me suis amusé du coup à séparer les records du monde en deux, ce fait avant 2020 et ce fait après 2020, puisque ces chaussures en carbone sont apparues à l'hiver 2020 justement, et c'est assez net effectivement. En ce qui concerne le demi-fond, 3000 mètres, 5000 mètres, 10000 mètres, 5 km route, 10 km route, semi-marathon, tous ces records ont été battus depuis l'avènement de ces chaussures en carbone. Par contre, en ce qui concerne les sprints, et même jusqu'au 1500 du 100 mètres, au 1500 mètres, sur les haies, à la hauteur, à la longueur, au triple saut, ça, ce sont des records qui tiennent depuis des époques qui datent au moins de 2020, donc où les chaussures en carbone n'existaient pas. Donc, c'est vrai qu'il y a certaines disciplines qui sont sujettes à des performances énormes grâce au matériel. La perche, tu en parlais. Alors, Armand Duplantis a battu 14 records du monde. Certes, il a des chaussures spéciales faites par Puma, certes, mais les perches en fibre de carbone n'ont quasiment pas bougé depuis les années 80. Donc là-dessus, ce ne sont pas les perches qui aident Armand Duplantis. Et puis voilà, pour parler des superstars de l'athlète, on peut aussi noter que Kevin Mayer, par exemple, a des chaussures spécifiques pour toutes les disciplines. Une différente, par exemple, pour le lancer du disque et le lancer du poids.
Ah oui.
De l'extérieur, ça semble assez superficiel, mais Nike a développé des chaussures spécifiques pour Mayer. Et même Jimmy Gressier, qui courait avec des Adidas, alors qu'il est sous contrat avec Kiprun, la marque de Decathlon, portera ensuite des Kiprun, mais il les développe en ce moment justement avec les ingénieurs de chez Decathlon pour qu'il améliore encore ses performances dans les mois à venir.
Les chaussures pour améliorer les performances. Hein. Je précise, les chaussures en carbone, elles ne sont pas toutes en carbone. Hein. C'est les chaussures avec des plaques en carbone en dessous qui permettent plus de rendement.
Mais elles font mal aux pieds quand même.
Tiens, je rappelle juste qu'Aurélien, vous l'écoutez également sur RMC Running. Abonnez-vous sur toutes les plateformes de podcast pour avoir les petites cartes postales à Tokyo. Les avancées technologiques faussent-elles les records? Le non pour l'instant est derrière. Sarah,
je m'insurge en faux.
Ouh.
Et je sens qu'avec Fred, nous allons élever le débat.
Je pense que déjà la première chose, c'est que ça, pour moi, ça ne fausse pas les records. Si on considère que les avancées technologiques dans le sport, bah, c'est comme un laboratoire d'innovation. Donc pourquoi dans ces cas-là on dirait que ça fausse les records? Donc déjà pour la première,
parce que ça améliore la performance tout simplement.
Mais de toute manière ça, la performance avec les années, elle s'est toujours améliorée.
Oui,
les performances, ils ont raison.
Sarah, je suis désolé, je vais dire que tu as tort, ils ont complètement raison. On devrait courir pieds nus comme à l'époque,
oui,
et là ça serait beaucoup mieux.
Oui, t'as
là, on est sûr qu'il n'y a pas de problème. Il faut quand même vivre avec son époque. À un moment,
exactement,
l'époque évolue, on évolue avec ça.
On n'a pas dit le contraire avec David.
Non, on n'a pas dit qu'il faut recontextualiser.
Non, mais il fait plusieurs questions dans la question.
Mais j'ai pas fait de
répondre à la question.
Je trouve que c'est magnifique.
Oui, et comme tu disais, les records, ils sont contextualisés. Donc, et on a amélioré aussi d'autres choses dans la performance, que ça soit l'entraînement, que ça soit des méthodes de suivi médical, que ça soit la nutrition, que ça soit le sommeil. Donc tout ça, en fait, ça améliore naturellement les performances. Donc les améliorations technologiques qui en fassent partie, pour moi, ça tombe sous le sens. Alors évidemment, on a fait en natation
mais à partir du moment où ça influence les records,
les combinaisons.
En voile, on a mis des foils. Qu'on essaye des chaussures ou avec des semelles carbone pour améliorer.
Mais on t'a pas dit le contraire, ça. Bah,
donc,
c'est pas le débat.
C'est quoi le débat?
Est-ce que ces avancées,
ils sont dans un contexte.
Non, mais d'accord. Moi, j'ai lu une interview de Marie-Jo Pérec, c'est quand même la reine de chez nous, française. Elle a dit, je suis née trop tôt. Voilà. Donc elle a répondu à la question.
Elle a quand même dominé sa
réponse
sur l'époque. L'important, c'est ta domination sur l'époque.
Non, mais attendez, sa réponse, elle est claire, nette.
Oui, en souriant.
Elle dit en gros, j'aurais explosé le record. Elle le dit en gros.
L'argument de Nice, c'est si Marie-Jo l'a dit, c'est que c'est comme ça.
Mais pas du tout.
David, toi, tu es dans le camp du oui avec Denis.
Non, mais enfin, très, très objectivement, vous prenez un record, on va prendre celui du saut à la longueur. Bon, il tient déjà depuis un bout de temps. C'est Powell qui avait battu Beamon, etc., au cheval du monde. Bon, ce record tient. Si demain, il est battu avec une chaussure différente, etc., etc., et on aura trouvé qu'il y a une efficacité, une efficience technologique qui a permis d'aller un peu plus loin, eh ben on va comparer ces deux records. Personne va se poser la question. C'est-à-dire que en première lecture, au premier degré, voilà, le record de Mike Powell a été battu, 8m95, on est passé à 9m, je dis n'importe quoi, mais ça peut être ça. C'est battu, enfin un record vieux de X années, etc., etc., etc.
Mais c'est faux,
personne,
David, c'est faux.
Personne va descendre d'un cran, en disant, il n'avait pas les mêmes pompes, il n'avait pas les mêmes ceci, il n'avait pas les mêmes cela. Même les tartans sont différents, etc.
Bon, mais même donc, la nutrition, on l'a dit, c'est ça, tout est différent.
Donc, je suis d'accord avec toi. Il faut dire, chaque record correspond à une époque et une technologie de l'époque. Donc oui, la technologie influence les records. Voilà, et c'était la simple
évidence.
Et seule question qui était posée ce matin.
Oui, c'est vrai.
On n'a pas dit qu'on était contre.
Maintenant, on ne peut pas comparer
deux époques différentes.
Malheureusement, quand je suis allé à l'école, j'ai appris à lire. J'ai le conducteur qui est devant moi. Les avancées faussent-elles? C'est ça la question. Faussent-elles? Ben, ça les fausse pas. C'est juste que ça les fait évoluer, oui, logiquement, parce que la société évolue, parce que le corps humain évolue, parce que la technologie évolue et parce que la prise en charge des athlètes évolue. Donc c'est
oui,
logique.
Toi,
ça les fausse pas, ça les
toi, fait évoluer. Toi, ça te dérange pas qu'on soit au même niveau pour battre les records?
Mais c'est surtout moi j'ai une question, Denis.
Mais dis-moi.
À partir de quel moment tu t'arrêtes de dire que ben c'est trop de technologie? À partir de quel moment tu décides que c'est trop?
Mais on le décide pas.
Au début, tu commences à courir pieds nus. Ensuite, t'as pris des chaussures d'une autre manière. C'est une évolution logique.
Mais d'accord, ça les fausse quand même.
Ça les fait évoluer et il faut recontextualiser.
La question, c'est est-ce que les records ont encore du sens, en fait?
Voilà.
Par exemple, sur le Tour de France, quand on compare aujourd'hui les records d'ascension, on parle beaucoup de l'évolution des vélos. notamment pour dire qu'aujourd'hui les records sont battus parce que les vélos sont beaucoup plus légers, sont carbone. On dit ils ont été plus vite qu'Eddy Merckx, ils ont été plus vite que Pantani. Voilà. Pour vous, ça n'a aucun sens.
Mais bien sûr que ça a un sens. Oui, justement, tu sais d'où tu pars, tu sais comment tu as évolué. En fait, à partir du moment où tu te rends compte de toutes ces évolutions, que tu, je me répète, je l'ai dit au moins trois fois déjà, mais que tu recontextualises. À l'époque, ils ne couraient pas avec la même chose. Mais au tennis, ils ont des raquettes différentes. Au basket, on a des chaussures différentes.
Avec des raquettes en bois, c'est
exactement.
Normal.
Mais alors, à un moment, on doit évoluer avec son temps.
Mais je suis d'accord avec toi.
Si on fait facile,
on n'a pas de
ça. Mais non, t'as pas compris. À ce moment-là, on ne met plus les records, on met les records d'aujourd'hui. À ce moment-là, on met les records d'aujourd'hui.
Mais non, c'est justement pour montrer à quel point on a pu évoluer. C'est important d'avoir un point A de départ et un point B d'arrivée.
David.
Là où ça fausse les records, c'est que deux athlètes à deux époques différentes ne peuvent pas être comparés.
Absolument. Voilà, c'est des valeurs,
si
juste des talons.
Ne peuvent pas être comparés.
Non, mais attendez,
parce que si tu mets l'athlète il y a 20 ans avec le même matériel, peut-être qu'il aurait été encore supérieur.
Mais alors, toi, tu n'aimes pas les records, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que c'est vous trouvez que ça ne veut pas dire grand-chose.
J'adore les records, mais à partir du moment où il y a un élément technologique qui vient perturber l'égalité de la performance entre deux individus, eh bien, il n'y a plus de records. On peut plus comparer des records.
Mais David, toi qui aimes la compétition, tu te rends compte quand même qu'on a transformé les athlètes en soi comme des machines. C'est des machines, c'est des Formule 1, c'est de la technologie extraordinaire. Donc on a déjà évolué par rapport à ça. Il y a un suivi qui est différent. Donc déjà, tu peux pas comparer les athlètes et les époques.
Mais donc, tu peux pas comparer les records.
Et ensuite, quand? Mais non.
Si, mon frère.
Je suis désolé. Quand tu vois des personnes qui s'entraînaient avant, difficilement, qui avaient peut-être un travail en même temps, alors qu'il y a des athlètes qui sont complètement professionnels, tu peux pas comparer. Et ensuite.
C'est pas vrai. Bah, je vais t'expliquer pourquoi après.
J'aurais du mal à adhérer, à mon avis. Et donc, l'évolution logique du confort, de la progression, de l'envie d'aller plus loin. Plus vite, plus haut.
C'est pas le débat.
Et ben c'est logique. Non. Et donc je dis juste, en recontextualisant, en disant, en 1980 on a fait tel record, maintenant on peut le battre parce que on a progressé sur des choses, parce que l'athlète est extraordinaire.
Mais ça ne m'intéresse pas, Denis, en fait, il ne faut pas vivre dans le passé. Pour moi, ça ne représente rien. Mais non, t'as pas compris, ça ne représente rien au niveau de la symbolique, c'est tout.
Et ben donc pour arrêter les concours.
Mais oui, mais absolument, c'est ce que je dis.
Moi j'aime bien. Moi
je suis contre le Volt malgré les évolutions techniques, il tient toujours.
Mais c'est clair.
Et puis, il y a la question, c'est de savoir, est-ce qu'on veut mesurer les records avec, si on considère l'égalité des époques? On ne peut pas être...
Mais c'est pas possible.
C'est impossible de considérer l'égalité des époques. Il a avancé tous les arguments possibles et inimaginables.
C'est pour ça que moi, je n'ai pas envie de...
Donc, ça ne peut pas fausser des records.
Mais moi, je suis...
Il faut les contextualiser.
Juste une question. Quand tu vois Duplantis battre le record du monde, est-ce que ça ne te fait pas quelque chose, quand même, quand tu vois un record du monde qui est battu? Non, d'un seul coup, sous prétexte qu'il y a des choses sur les... Mais donc, il te faut une valeur des talons de base pour savoir d'où tu pars. Sinon, tu peux pas l'avoir. Si t'as pas de valeur des talons, tu peux pas considérer que c'est
Aurélien,
une performance.
Aurélien, tire ça à Tokyo.
Mais tu vas...
Si je peux me permettre de rebondir sur ce que Sarah et Fred disaient, c'est vrai aussi que ce matériel-là, si tu le mets sur un athlète moyen, ça donnera rien, en fait. Il faut savoir aussi le maîtriser. Donc, déjà, pour battre un record, alors tu parlais aussi des records, donc 100 mètres, 200 mètres, 400 mètres, 800 mètres, 1500 mètres, ce sont des records qui ne tombent pas. Et, pourtant, tous les athlètes ont le matériel.
Du champion, on est d'accord.
Voilà, exactement. Aurélien. Il faut quand même que ça soit un être exceptionnel qui utilise ce matos-là.
On va pas le dire, évidemment.
Mais Denis, on est d'accord. Il te faut une valeur étalon pour dire c'est extraordinaire ce qu'on voit de Duplantis. Sinon, on dirait quoi?
On est d'accord.
On dirait, c'est normal, mais il a une super perf. Il est évident
que Duplantis est un super champion. On va pas revenir là-dessus.
Oui, mais il bat des records du monde.
Oui,
c'est ce qui plaît. Et dans les mythiques,
et s'il utilisait une perche en bambou, comme il y a 100 ans, c'était le cas il y a encore 80 ans. Et il ferait 4 mètres, en fait. Ouais.
Ce que je vous propose, c'est qu'on écoute Pierre-Ambroise Boss, notre champion du monde du 800 mètres, qui a été interrogé par Julien Richard sur justement le bon et le moins bon du carbone dans les chaussures, ce que ça apporte, et du coup, indirectement également sur les records.
Concrètement, c'est qu'il y a un retour d'énergie beaucoup plus conséquent à chaque foulée, qui implique que tu dois musculairement être plus solide. C'est pas que du positif non plus. Il faut pas non plus rêver. Il y a des gens qui sont aussi en contre-temps par rapport à cette plaque et que ça marche pas pour eux. C'est aussi les modèles sont différents pour chacun et c'est pas toujours facile. Moi, il y a eu du très bon et il y a eu du moins bon. Plus le temps passé sur la piste est long, plus tu vas gagner. C'est-à-dire qu'au marathon, tu gagneras plus que sur 100 mètres.
Pierre-Ambroise Boss. Et oui, c'est vrai que sur les distances longues, forcément, bah oui, ça va avoir plus, bah, plus d'impact. Donc,
il porte bien son nom, c'est le boss.
Souvenez-vous en natation. Souvenez-vous en natation, ces maillots qui ont été.
Les combinaisons.
Les combinaisons qui ont été mis hors jeu parce qu'elles avantageaient de manière significative les athlètes. Bon, voilà. Ils ont pris une décision.
Il y a un vrai problème, David, par rapport à ça. Il y a certains records qui ont été homologués.
Mais les records ont été homologués, effectivement.
Ça, par contre, ça me dérange.
Oui. En plus, ils ont été battus depuis.
En athlée, pour juste parler des plaques en carbone, elles ont été quand même réglementées. Il y a une certaine épaisseur, un nombre de plaques de carbone. Au début, ça partait un peu dans tous les sens, ça rebondissait trop. Et du coup, World Athletics, ça dit stop, c'est 4 mm maximum la plaque de carbone et tant de plaques les unes sur les autres. Donc, c'est pas non plus n'importe quoi, c'est pas des ressorts.
Un jour, il y a un athlète qui est sorti du stade, carrément, tellement il a rebondi, qu'ils se sont dit, est-ce qu'on n'est pas allé trop loin?
En vérité, les records peuvent être considérés lorsqu'il y a une égalité parfaite.
Ça existe
parce qu'il y a des records qui tombent pas. Qu'est-ce que tu me racontes?
On vous mettra pas d'accord. Et là, je pense que c'est aussi finalement le sens même des records qui vous divisent et sur lesquels vous n'allez pas forcément être d'accord. Tiens, 53% pour le oui, 47% pour le non. Vous avez gagné un petit pourcent. Oui.
Donc on a gagné.
Et Sarah, en tout cas, vous avez plus convaincu peut-être sur la durée du débat. Je vous félicite. Aurélien Tiercin, le programme des mondiaux. On attend Jimmy Gressier sur le 5000 demain, c'est ça? À quoi on doit s'attendre?
Oui, on va pas se mentir, c'est 12h50 heure française dimanche pour voir Gressier mais aussi Schrub et Daguinos. Trois Français dans le top 8, ça sent bon. Peut-être sur le podium, on va se faire plaisir là-dessus. Et sinon, pour les tricolores, ça va être plus compliqué. Il y a les relais aujourd'hui, les séries, donc 4x4 et 4x100 femmes et hommes. Pour ce qui est de la finale des 400 et des 800, bon, il n'y a pas de Français malheureusement. Donc on va vraiment s'attarder demain sur 12h50 finale du 5000 mètres avec les trois Français.
Et on vivra ça en intégralité, évidemment. Évidemment, RMC bouscule ses programmes pour ne rien rater de ce 5000 de Jimmy Gressier. Merci Aurélien Tiercin, évidemment.
Salut, à bientôt.
Pour suivre ces mondiaux de Tokyo. Dans quelques instants, Captain Charvet prend le brassard. Tu nous parlais des commotions cérébrales alors que Paul Willemse a arrêté sa carrière cette semaine à contre-cœur à cause d'une énième commotion. Il faut être alerté, mais pas forcément effrayé. Ce que tu vas nous dire dans quelques instants. A tout de suite dans les grandes gueules du sport sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirinot.
Sarah Pitkowski, David Douillet, Denis Charvet et Fred Veil ce matin. J'ai remarqué que Fred Veil et David Douillet sont d'accord sur rien depuis ce matin.
J'aimerais qu'il y ait un
peut-être, comme ça. Non, mais peut-être que c'est parce que Fred a traité David de gringalet à Sydney d'émission.
Alors vraiment, loin de moi l'idée de le traiter de gringalet. Je le considère comme un gringalet, c'est pas une insulte.
J'aimerais bien le mettre sur un tatami, Fred, avec David.
Pas sur un tatami.
C'est peut-être le seul mec de France à pouvoir dire que t'es un gringalet, David. Ouais. Franchement.
J'adore parce que ça me fait tellement de bien de me sentir
Dans quelques instants, vos GG vous font le programme du week-end. C'est la Zapette DGG. Mais tout de suite, c'est Denis Charvet qui met le brassard.
RMC, Captain Charvet met le brassard.
Denis, tu voulais absolument nous parler ce matin de ce qui a provoqué chez toi cette semaine la retraite à contre-cœur de l'ancien joueur du 15 de France, Paul Willemse, à 32 ans, vainqueur du Grand Chelem aux 6 Nations et du Top 14 de la même année avec Montpellier, raccroche les crampons en raison d'une dernière commotion cérébrale subie il y a un an, celle de trop.
Celle de trop, évidemment, et puis il sort par la porte de l'infirmerie, il n'a pas eu le choix que d'arrêter. C'est surtout ce qui est émouvant, c'est ce qu'il raconte, c'est-à-dire que ces troubles maintenant qu'il subit, il dit parfois je deviens comme un fou, c'est presque à se taper la tête contre les murs. Maintenant ça va mieux, il est en train de revenir un petit peu plus lui-même, on va dire, mais il se fait suivre encore. Alors tout ça est venu après une répétition de chaos.
Six commotions.
Mais la problématique, c'est que ces commotions-là, eh bien, le moindre coup en fait, des coups neutres, anodins, qui par le passé lui faisaient pas mal. Tout d'un coup, ça occasionnait une commotion. Donc c'est, mais moi je voulais parler de ça parce qu'aujourd'hui il y a eu tellement une avancée dans le monde du rugby au niveau de la prévention qu'il faut pas alerter les parents, c'est-à-dire qu'il faut les rassurer. Moi je pense qu'aujourd'hui Paul Villancé était un joueur de combat, un vrai guerrier. Et puis bon, comme d'autres joueurs, j'ai l'exemple de Rémi Bonfils qui était un talonneur du Stade Français qui a dû arrêter très tôt sa carrière de joueur pour les mêmes raisons. Alors évidemment il y a des cas, mais il y a aussi l'évolution par rapport à la prévention, notamment. Mais je sais pas si vous êtes au courant, mais il est protège-dents connectés. Ces protège-dents connectés, c'est-à-dire qu'en temps réel, on sait à peu près les coups que le cerveau prend en temps réel, quoi, en temps réel. Et en fonction des coups, eh bien, on peut arrêter un joueur automatiquement, c'est-à-dire qu'on voit que le cerveau a été touché et ce joueur est arrêté. Et aujourd'hui, tous les joueurs professionnels sont obligés de mettre ce protège-dents connecté. C'est-à-dire que c'est une vraie, véritable avancée. Après, on a fait des efforts au niveau de World Rugby, c'est la fédération internationale. Les plaquages, on a baissé les plaquages. C'est-à-dire que maintenant, les plaquages à la tête sont sanctionnés irréversiblement. C'est-à-dire que maintenant, on sort le joueur et souvent, il y a des cartons rouges et le joueur ne revient pas en jeu. Donc, on a aussi pris en compte ce secteur de jeu, ce fait de jeu qui faisait que, mais beaucoup de commotions venaient de ces plaquages hauts. Ce plaquage haut, ou parfois des plaquages qui étaient mal réalisés. Par exemple, un joueur venait souvent se cogner la tête contre, ou continuer à se cogner la tête contre des genoux, des parties du corps fort de l'adversaire, et ça occasionnait des commotions. Tout ça, c'est, mais aujourd'hui, il y a un véritable effort qui a été fait à tous les niveaux. Dans chez les gamins aussi, par exemple, on pousse plus les mêlés. Jusqu'à, je crois, 15-16 ans, on pousse plus les mêlés. Ou 14 ans, voilà. Il y a la mêlée aussi, qu'il y a eu plein de règles qui ont été mises en place en mêlée pour préserver justement la santé du joueur. Donc je voulais dire ça parce que c'est vrai qu'il y a eu l'effet de Sébastien Chabal quand il a révélé qu'il avait perdu la mémoire.
Oui, à cause de
commotions répétées. Et aujourd'hui c'est vrai qu'il y a des mamans qui s'inquiètent quand ils voient leur fils aller jouer au rugby. Donc tout ça, il faut prendre en compte quand même l'évolution de cette prévention par rapport à la santé du joueur.
Ça doit nous faire réagir, mais pas nous effrayer, en tout cas. C'est ce que tu veux défendre aujourd'hui, par rapport à tout ce qui est fait aujourd'hui pour protéger les commotions cérébrales. Donc après le témoignage de Paul Villemcé. Tiens, on va peut-être l'écouter quand même. Paul Villemcé, c'est important de l'écouter. Après, vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas avec le capitaine Charvet par rapport à ce qui a été dit.
Aujourd'hui, il me reste encore peu de symptômes. J'ai encore des problèmes avec les yeux. Parce qu'apparemment il y a un œil qui traîne un peu si je fais tourner la tête un peu rapidement sur le côté et tout, ça m'a fait des nausées. Et pour l'instant, si je fais des jeux avec les enfants ou je loot un peu quoi, ça me donne un peu impression de tête et un peu mal aux têtes. Donc en fait, c'est pas des choses qui me perturbent de faire une journée normale, mais c'est clair que je peux pas faire ce que j'aime faire sur le terrain.
Voilà, poignant, hein, Paul Villemcé, invité du SMS cette semaine. Tu étais là, Denis, et c'est pour ça que ça t'a fait réagir. Mais il faut pas que ça effraie effectivement tout l'écosystème et les parents. C'est ce que tu nous voulais défendre ce matin, Denis. David, t'es d'accord ou pas avec le capitaine Charvet?
Oui, je suis d'accord avec le capitaine Charvet. Faut pas, parce que là encore une fois, on compare des choses qui sont pas comparables. On a les athlètes de haut niveau avec des gens qui sont des professionnels et qui ont des physiques préparées hors normes et des impacts physiques qui sont liés à ces capacités. Donc les impacts sont évidemment plus fort. Si aujourd'hui on parle peut-être beaucoup plus de commotion cérébrale, c'est parce que aussi le physique des athlètes depuis 20 ou 30 ans a évolué. Donc tout ça est de plus en plus, il y a plus de puissance, plus de coups, plus de chocs violents en fait. Chez les enfants, c'est pas le cas. Attendez, faut que les parents se remettent à un juste niveau. La pratique du rugby dans les clubs pour les gamins,
elle est très encadrée aujourd'hui.
voilà, ils n'ont pas des physiques hors normes, etc. Ils bénéficient des avancées dans la réglementation, ce qui expliquait tout à l'heure Denis, pour les protéger. Et je dois dire qu'au sein de beaucoup de fédérations, et pas simplement du rugby, moi j'ai eu l'exemple à travers ma belle-fille dans le hand, et ben dès qu'il y a un athlète ou une athlète qui a un problème, elle a 14 ans, hein, un problème de ce type-là, de commotion, tout de suite il y a un protocole qui est mis en place. Elle peut pas, elle va pas pouvoir faire de retour à l'entraînement avant.
Le même que dans le rugby, David.
Ouais, c'est ça, quasiment le même, ouais. Elle est sous observation, elle a eu un espèce de carton blanc. Elle doit pas s'entraîner pendant une période. Elle pourra revenir et puis si ça se reproduit, eh ben on passe à la strate supérieure, etc., etc. Et elle n'a que 14 ans, elle joue dans le département et en région. Donc c'est super. Donc tout ça est pris en compte. Faut pas s'alarmer à ce que le sport vienne détruire vos enfants, c'est pas vrai. Tout ça est très considéré et beaucoup mieux encadré aujourd'hui grâce aux athlètes et au haut niveau qui ont montré ce type de limite et qui font que les avancées sont très positives sur ces sujets.
David, d'accord avec Capitaine Charvet, les commotions cérébrales doivent nous faire réagir après le témoignage de Paul Villemc, mais ne pas effrayer les parents parce que des choses sont mises en place aujourd'hui. Sarah.
Alors moi je voulais le voir, en tout cas j'avais une question à te poser Denis, mais pas nécessairement sur aujourd'hui, sur le fait que les familles ou les enfants qui jouent au rugby en tout cas devraient être rassurés par tout ce qui est mis en place. Moi je voulais revenir par ces joueurs de rugby. Comme à l'image de ce rugbyman, on a malheureusement souvent lu des histoires de rugbyman qui, à la fin de leur carrière, sont tombés dans des formes d'autodestruction, véritablement. Et après, quand on lisait les autodestructions, on voyait des addictions, que ça soit à l'alcool ou à la drogue. Et ma question, Denis, est-ce que c'est probablement par ces commotions qu'il y a eu ce mal-être à la fin des carrières et on n'avait pas identifié que c'était les chocs et la répétition des chocs qui pouvaient fragiliser parce que un rugbyman reste quelqu'un de fort et on pense qu'il l'est toute sa vie.
Moi, je le pense
pas. Le fait qu'on a identifié finalement les sources de ces commotions et on identifie mieux finalement ces fins de carrière.
Moi, je pense que les dérives dont tu parles, alors l'alcool ou autre, ou la drogue, pour aller plus loin, ça vient de l'exigence de ce sport. C'est-à-dire que c'est tellement un sport basé sur la performance individuelle, c'est devenu des athlètes, ils sont confrontés tous à des... Et si tu veux, parce que la pression est de plus en plus forte à cause des contrats à court terme, des contrats par rapport à l'avenir, on a vu le cas d'un jeune à Rouen qui est toujours en Pro D2 qui s'est suicidé il y a 2 ans parce que justement il avait un problème.
Exigence. C'est un autre sujet.
Parce que Sarah parlait des commotions. Est-ce que ça c'est
bien sûr.
Mais je pense que ces dérives de l'alcool, de la drogue, ça vient pas forcément de là. C'est ce que je réponds à ça.
Le mal-être et les conséquences de ces commotions.
C'est vrai parce qu'à son époque, Denis, les commotions, c'était lève-toi, garçon.
Mais nous, ça fait froid dans le dos. Hein. Tu sais que tu prenais une commotion le dimanche, lundi, c'était à l'entraînement. Tu en prenais une autre à l'entraînement, tu continuais. Tu ne t'arrêtais jamais. Enfin, je veux dire, c'est l'âge de la pierre. Mais ça fait peur.
Toi, ça te fait.
Ah oui.
On rappelle, tu nous disais dans le vestiaire la semaine dernière, je crois que tu disais moi, j'ai arrêté ma carrière parce que je voulais pas
faire un meilleur vieux. Mais...
Je voulais être bien. Mais avec du recul, tu repenses à les chocs que tu as eus, justement.
Bien sûr. Oui. Mais moi, je jouais derrière. Mais ceux qui jouent devant, qui jouent devant, rétrospectivement, ils doivent savoir faire. Parfois, ils doivent se poser la question de dire mais pourquoi je suis épargné presque. Parce que le rugby n'était pas surveillé comme aujourd'hui. Pourquoi je dis ça? C'est qu'aujourd'hui, il y a un encadrement qui est formidable à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'il y a eu, la prévention à tous les niveaux. On voit ce qui a été fait par rapport à la réflexion. Les arbitres sont beaucoup plus rigoureux. Enfin, tout, l'encadrement. Quand je dis ça, le rugby, ça reste un sport dangereux. Faut pas dire n'importe quoi non plus. C'est un sport de contact. Mais c'est un sport qui
est encadré.
Qui est encadré aujourd'hui beaucoup mieux qu'il y a 5 ans, qu'il y a 10 ans, qu'il y a 20 ans.
Tiens, intéressant peut-être d'écouter Fred avant de t'entendre sur ce sujet. Eric qui nous appelle au 32-16. Salut Eric.
Oui, bonjour. Bonjour à tous. Ravi d'être à l'écoute avec vous. Je vous écoute tous les week-ends.
Merci. Ça t'a fait réagir le capitaine Charvet qui nous parle des commotions cérébrales. Il faut être alerté, mais il ne faut pas forcément en tout cas être effrayé parce que c'est encadré. Tu en penses quoi?
Alors, moi, mon fils, il a fait du rugby jusqu'à l'âge de 14-15 ans. J'ai adoré. J'ai adoré l'esprit du club, j'ai adoré les éducateurs, leur implication, c'était formidable. Franchement, j'ai adoré cette période-là. Quand il, à 14-15 ans, il m'a dit « j'arrête le rugby, je vais être honnête avec vous », j'étais content. Il se retrouvait en face de gamins qui avaient poussé, le mien c'était encore un gringalet, et il se retrouvait en face de gamins qui faisaient 80 ou 85 kilos, et l'entraîneur qui disait « allez, faut y aller, va plaquer et tout ça ». Et j'ai vu des petits modèles comme ça sortir du terrain un peu émoussés, quoi. Je me demande si le rugby devrait pas se poser la question de savoir si on doit pas faire des catégories par poids à un certain âge.
Ouais, c'est pas
un
idiot.
Peu comme le judo.
C'est pas idiot, mais je crois que c'est pas le cas totalement, mais ils sont en train de se poser la question. Et ça a été évoqué, en tout cas.
Parce que à ces âges-là, il y a des écarts de maturité.
Oui,
dans la
Kipouzak.
Tu vois, des écarts de physique. T'as des gamins à 13, 14 ans qui ont déjà leur physique d'adulte, quasiment, et d'autres qui l'auront deux ou trois ans plus tard. Et là, il y a une tranche où il faut effectivement.
Jusqu'à 15 ans, oui.
Réfléchir à quelque chose, ouais. Oui, c'est vrai.
Fred, on t'a pas entendu encore.
Non, mais en fait, je suis désolé, Denis, moi, tu m'as pas convaincu. Parce que moi, je sais que si j'avais un enfant, je le mettrais pas au rugby. Parce que je suis désolé, les témoignages là sont glaçants. Oui, je sais qu'on fait des efforts du côté du rugby et j'en ai pleinement conscience. Quand j'entends David qui dit les plus jeunes n'ont pas les mêmes impacts, non, mais ils ont pas non plus les mêmes capacités de résistance. Donc ils sont équivalents en proportion.
Oui, mais après il y a le tri qui se fait naturellement.
Moi, je suis désolé, quand je vois le rugby, c'est un sport de combat, c'est un sport dur, c'est un sport exigeant, comme tu l'as dit, et je suis complètement d'accord. Mais moi, ça me fait peur. Moi, vraiment.
Et t'as le droit d'avoir peur. Mais la question se pose pas. Ce que je veux dire, c'est que
quand j'entends ces témoignages là. Je suis désolé. Moi, vous pouvez me dire ce que vous voulez. Ce sport est dangereux.
Oui, mais tu veux quoi? Tu veux la, mais
non, on essaie, mais c'est pas le contraire.
Je t'ai expliqué que c'était, je te l'ai dit.
Moi, ça me suffit pas. En fait, réellement.
Mais tu peux pas.
Si j'avais un garçon, on a à faire du rugby.
C'est pour ça que le témoignage de Derrick,
Fred,
tu peux pas empêcher un gamin. Je suis désolé. Moi, mon fils, alors j'ai pas de fils, j'ai des filles. Mes filles a joué au rugby au Stade Français à ça, à 18 ans. J'étais mort de trouille. Donc elle a arrêté très tôt. Mais je veux dire, tu peux pas empêcher un gamin. Moi, mon fils, s'il avait joué au rugby, j'aurais pas pu l'empêcher de jouer.
Non, mais évidemment.
Tu vois ce que je veux dire, ça m'aurait fait peur.
Si il me demandait conseil, je dirais non. C'est ça que je veux dire.
Pourquoi tes enfants
ils te demandent conseil quand ils vont faire du
sport?
Non, évidemment, tu me diras comment tu fais.
En expliquant que, ben oui, il y a plein de choses qui sont mises en place et je suis content et je suis ravi que ça se passe comme ça. Mais quand je vois les rugbymen témoigner à la fin, ben je suis désolé.
Mais on est tous touchés par ces témoignages, Fred. Ça enlève pas la passion.
Je trouve ça dingue. Évidemment, il y a des cas où il y a eu des accidents graves, etc., etc.
Dramatique, mais c'est ces généralités
qui font que c'est un sport violent, très dangereux.
Je suis pas d'accord. Alors Fred,
dans ce cas-là, il faut plus laisser nos enfants traverser la rue. Il faut plus laisser nos enfants passer leur permis de conduire. Il faut plus.
Tout est dangereux, à partir de ça on ne fait plus rien.
Le plus dangereux, c'est les discussions, les amis, merci, débat passionnant, mettez-les sur un tatami, je pense que Fred a plus de chance dans une cage.
Il aura 800 une cage sans couler.
A tout de suite, les GG vous disent ce qu'il ne faut absolument pas manquer ce week-end, c'est la Zapette. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quilineau.
C'est chaud, Georges, c'est chaud aujourd'hui.
C'est très très chaud, effectivement. Denis Charvet, Fred Weiss et David Douillet.
Si ça continue à mal se passer avec David Douillet, je l'oblige à traverser la rue, moi. C'est tellement dangereux.
Est-ce que tu traverserais la rue, Sarah, avec Fred et David?
Sans aucun problème.
Mais eux devant.
Même si le petit bonhomme est rouge, je me mets entre les deux, a priori, j'ai deux gros airbags.
Ne traversez pas au rouge, quand même, hein, je le dis pour les enfants qui nous écoutent.
Se fout de toi, David, c'est affreux.
Hein. Mais non. Non, c'est pas grave, j'ai raison.
L'important, c'est d'y croire.
Le meilleur argument pour terminer, pas grave, j'ai raison. C'est bon ça. Le vestiaire des GG dans quelques instants. Bah tiens, comment se servir des critiques, justement? Bah peut-être en disant j'ai raison, donc suivez-moi. Mais d'abord, vous allez me dire ce qu'il faut absolument suivre ce week-end.
RMC, la zapette des GG.
La zapette DGG, on va la faire passer. Tiens, d'abord, Fred. Tiens, Fred, qu'est-ce qu'il faut absolument suivre, écouter ce week-end?
Ben, un sport non violent. Il faut écouter forcément un sport qui où il y a beaucoup moins de problèmes. Non, en fait, le basket se déplace à Roland-Garros. Il y a une super.
Il y a des blessés au basket.
Il y a des blessés, bien sûr. Ah ouais. Ben, surtout, c'est des entorses, c'est des trucs comme ça.
Bon, c'est pas des blessés, alors.
Oui, mais non, nous, on se tape pas dessus, en fait. C'est pas le but du sport.
Ça arrive,
on
peut avoir. Ça
c'est
arrive.
Bien dommage.
Ouais, mais t'inquiète pas, je te taperai dessus un jour. Donc, j'en reviens à ce que je disais. Il se passe à Roland-Garros une super coupe où des équipes fantastiques comme Monaco et Paris qui sont en Euroleague, les deux bien équipes, donc de très belles équipes. Le Mans, qui est un cador du championnat de France depuis de nombreuses années. Et Boulazac, une ville de 7000 habitants qui se déplace à la capitale pour essayer de gagner. Dans ses rangs, il y a un joueur qui s'appelle Tony Snell qui a plus de 600 matchs NBA. Donc voilà, il y a un vrai intérêt, il y a un vrai engouement. C'est samedi et dimanche. La Ligue organise cette super coupe pour la première fois. On est un peu limité en termes de jauge parce que la mairie de Paris interdit d'aller trop loin dans la jauge.
Ah oui.
Mais c'est blindé. Tout le monde est ravi de voir ça. Et encore une fois, Boulazac. Le basket qui fait son tennis, c'est magnifique.
C'est Stéphane Bonne qui a joué à Boulazac.
C'est beau, ça.
Ah, je sais pas.
Non ouais. Peut-être. Je me trompe.
Boulazac Monaco, en tout cas, c'est à 16h. Hein, et Paris Basket Le Mans à 17h. Finale demain à 17h.
19h, pardon. Non, s'il te plaît, ne te trompe pas. Tu peux te tromper en rugby sur qui est le meilleur. Mais pas sur les horaires de basket.
En tout cas, celui qui ne se trompera pas, c'est Morgan Mori qui va vous commenter.
Et donc, samedi et dimanche.
Samedi et dimanche, à suivre sur RMC, évidemment. Tiens, tu parleras d'ailleurs demain, tu prendras le brassard de capitaine sur la place du basket en France, qui est peut-être en train de, eh bien, d'exploser, de prendre encore un peu plus d'envergure. Sarah Pitkowski, je te passe la zapette. Dis-moi, il n'y aurait pas le derby du Schnorr?
Ouais, aujourd'hui? Absolument. Ce soir, c'est Lens-Lille. C'est le 122e, s'il vous plaît. Derby, là, voilà un vrai derby. Et je vous épargne mon accent du Nord parce que je l'ai perdu il y a bien longtemps, quand j'ai débarqué à la capitale. Mais oui, parce que RC Lens, le LOSC, c'est l'un des derbys les plus intenses. Il y a cette rivalité historique. Ça fait, ces deux villes sont espacées de 50 km. Donc là, on parle d'un vrai derby. Il y a aussi les différentes sociales entre Lens, la Minière, et Lille, la Bourgeoise. C'est comme ça qu'on réduit, ces derbys, c'est bien vrai. Évidemment. Et puis, il y a un enjeu sportif parce que Lille est souvent dans la course aux places européennes, voire Ligue des Champions. Hein, et puis, Lens, selon les saisons, eh bien, ils ont souvent joué les troubles faites. Voilà, donc il y a quand même une vraie opposition entre ces deux clubs, même si Lille a quand même un petit peu l'ascendant en termes des confrontations. Mais il faut toujours se méfier de Lens. Et puis on a deux champions du monde. Hein. On a Thauvin d'un côté, du côté de Lens, face à Giroud à Lille. Donc voilà, il y a plein d'ingrédients qui fait qu'on ne peut pas rater ce derby. C'est ce soir à 20h45.
Sarah, tu m'as convaincu, j'ai envie de manger un Welsh.
Ouais, absolument. Avec une bonne bière.
Avec
modération.
Ou une fricadelle, c'est comme tu veux.
À 10h53, une fricadelle, ça passe. 21h05, sur RMC, Lens Lille dans l'After Live avec Karine Galli, Valentin Jamin et Jean Baumel. Au commentaire, David Douillet. Oh, David, souvent, il y a la Formule 1 qui intéresse le week-end. Je te passe la zapette.
Exactement, on a le Grand Prix d'Azerbaïdjan à Bakou. Voilà, un Grand Prix qui se déroule en ville. Avec là, on va commencer à rentrer dans l'entonnoir, notamment pour les McLaren, avec Norris et Piastri qui sont au coude à coude premier et deuxième du championnat, mais dans la même écurie, avec la même voiture, évidemment. Donc là, on a assisté jusqu'à maintenant beaucoup de civilité entre les deux, etc. Je pense que ça va être le Grand Prix qui va commencer à les faire monter en pression l'un contre l'autre et assister véritablement à un duel acharné pour aller gagner ce championnat, parce que je vous rappelle que l'année prochaine, les voitures et la réglementation vont changer. Donc tout ça va rebattre les cartes pour l'ensemble des écuries. Et s'il y a un championnat à prendre pour ces deux-là, c'est bel et bien aujourd'hui. Donc chacun va y aller à fond, ça c'est sûr et certain. Grand Prix en ville, ça veut dire que il y a pas loin notre ami monégasque
Charles Leclerc.
Qui lors des essais nous a montré de belles choses avec Hamilton d'ailleurs, parce qu'ils ont fait les meilleurs temps pendant les essais. Alors on a deux courses dans le week-end, hein. On a le sprint ce midi là à 12h05, une course sprint, et puis cet après-midi il y aura les qualifications pour la grille de départ demain pour la grande course demain. Donc c'est un très beau week-end de F1 avec je crois le vrai démarrage de la course au titre qui va s'opérer.
Magnifique, David, nous annonce le début de la guerre chez McLaren. J'adore ça. 14h les qualifs effectivement, et la course de demain à 13h et en plus c'est à suivre sur AMC avec la légende Jean-Luc Roy.
Tu sais quoi, surtout il nous annonce que les moteurs des voitures, les voitures ont beaucoup progressé depuis les années 90.
Il lâche pas l'affaire. Il lâche pas l'affaire.
En tout cas, il en parle aussi bien que Jean-Luc Roy.
C'est vrai.
Tu nous passionnes, David. Moi, je suis avec toi, David.
Heureusement, merci, mon Denis.
David,
on est solidaires.
Fred, il te respecte plus.
Denis, je te passe la zapette. Montpellier-Toulouse, c'est ça ce soir?
Rapidement, oui, il y a un match. Attention, danger. Attention, danger pour Montpellier qui reçoit le Stade Toulousain. On sait que le Stade Toulousain, quand il se déplace, souvent il gagne. Donc, Montpellier qui a perdu les deux premiers matchs du top 14, notamment une défaite difficile à digérer contre Toulon à domicile. Là, il s'attaque au Stade Toulousain ce soir à 21h à Montpellier. Il faut gagner. Il faut gagner parce que s'ils perdent ce soir, ils vont la traîner comme un boulet. Et on sait que quand tu démarres mal une saison de top 14, ça peut durer très très longtemps. Ils ont une très bonne équipe, Montpellier, mais c'est un calendrier qui est difficile en ce début de saison. Ils sont allés à Bayonne, ils ont fait un très bon match à Bayonne, mais ils ont chuté à Bayonne. Voilà, il faut le regarder. Il y a d'autres belles rencontres, et notamment aussi, on va redire le match cet après-midi à 16h30 quand même. Il faut en reparler, les féminines.
Effectivement, France-Angleterre. Angleterre, à 16h30.
Sur RMC, avec
Lenei Corso et Pierre Thévenet. Je rappelle que les matchs du top 14 d'ailleurs ont été déplacés
à 18h30
pour qu'on puisse avoir ce match de rugby féminin à Montpellier-Toulouse ce soir 21h avec Julien André au commentaire. Troisième journée du top 14 à suivre en intégralité sur RMC. Tout ce que vous avez annoncé dans la zapette, vous pouvez l'écouter sur RMC ce week-end. On revient dans quelques instants, on va ouvrir le vestiaire avec les GG. Comment se servir des critiques? Vous savez que Jimmy Gressier avait été critiqué par David Douillet il y a un an aux Jeux Olympiques, ça nous a inspiré ce vestiaire dans quelques instants sur RMC. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi,
les grandes gueules du sport.